franceinter.fr.
Bonjour. Pendant que le monde entier a les yeux braqués sur la guerre en Syrie, que se passe-t-il tout près de là, en Israël et dans les territoires palestiniens, où l'un des conflits les plus emblématiques de la région n'est toujours pas réglé? Depuis l'automne dernier, des attaques quasi quotidiennes contre des militaires ou des civils israéliens sont perpétrées par de jeunes Palestiniens armés de couteaux ou au volant de voitures utilisées comme des projectiles. C'est ce que les médias ont baptisé « l'intifada des couteaux ». Un conflit de basse intensité qui aurait déjà provoqué la mort de 28 Israéliens et 200 Palestiniens, selon un bilan établi par l'AFP. Les jeunes auteurs de ces attaques, parfois mineurs, semblent agir sans commanditaire, dans un égal rejet de l'occupation israélienne et de l'autorité palestinienne supposée les représenter. En l'absence de toute perspective de solution politique, alors que les accords d'Oslo sont moribonds, la haine et la radicalisation montent de part et d'autre. Israël, face à l'intifada des couteaux, c'est un reportage du correspondant de Radio France à Jérusalem, Étienne Monin.
Interception, le magazine de la rédaction.
Je suis Ahmed Kamel, chef du département santé de la ville. J'ai 53 ans. Maintenant que mon fils Mohamed est devenu un martyr, je suis le père de trois garçons et deux filles.
Sur votre mur, on peut voir le visage de trois jeunes hommes. L'un d'entre eux est votre fils. Qu'est-il arrivé ?
Ces trois garçons sont des martyrs. Ils sont morts devant la porte de Damas à Jérusalem. Bien sûr, on n'était pas au courant de cette action. On a appris par les médias qu'il y avait eu une attaque à Jérusalem et que les trois garçons avaient été tués. Que Dieu ait pitié d'eux. Après, ils ont montré les cartes d'identité des trois martyrs. On a compris que notre fils était parmi eux.
Il avait quel âge ?
20 ans.
Et c'était une attaque avec des armes à Jérusalem ?
Oui.
Comment vous avez réagi quand vous avez vu la carte d'identité de votre fils dans les médias ?
J'étais très triste, mais en même temps heureux, parce qu'il est allé au paradis. On a organisé le deuil à la maison. Bien sûr, la ville de Kavatiya était sous le siège de l'armée israélienne. Il y a eu des affrontements. Forcément, les jeunes ont jeté des pierres contre les forces d'occupation. Et l'armée est venue dans notre maison cette nuit-là. Mon fils avait une bonne vie. Très belle, pleine de joie. Nous ne nous sommes rendus compte de rien. L'occupation israélienne tue aussi des gens tout le temps. Elle met des checkpoints, elle tue les femmes, elle tue les enfants, elle tue. Mettre autant de pression sur les Palestiniens, voilà ce que ça a créé. C'est une étrange situation que personne ne peut cerner, même pour mon fils. Il est parti et jusqu'à présent, je ne sais rien de ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête de ces jeunes. Le père ne peut pas contrôler, la mère non plus. Personne.
Là, on est dans une pièce dans laquelle il n'y a presque pas de meubles. Pourquoi ça ?
Les forces israéliennes peuvent venir à n'importe quel moment pour démolir la maison. Donc on a déménagé presque toutes nos affaires et on les a mises dans la maison de mon frère.
Yitzhak Moraoni a les yeux tournés sur l'impressionnante colonie de Kiryat Arba, l'une des pièces d'un puzzle d'implantation bâti par la ligne dure des colons sur les hauteurs de la ville palestinienne d'Hébron. C'est aussi l'un des foyers de cette nouvelle vague de violence. Ces trois derniers mois, les attaques ont faibli en intensité, mais leur dangerosité s'est renforcée avec l'utilisation plus fréquente d'armes à feu et des actions à l'intérieur de certaines colonies.
Toujours autant de nervosité.
Ouais, quand il y a un truc comme ça, c'est toujours comme ça.
Vous étiez là ou à proximité ?
À peu près.
Et qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé ici ?
D'à peu près ce que j'ai compris, bah, y avait un soldat ici qui garde en fait le matin les gens qui font le stop pour aller à Jérusalem, pour aller travailler. Et il y a une voiture qui est venue et elle a essayé de l'écraser.
C'est arrivé au moment où en fait les travailleurs palestiniens commençaient à rentrer dans la...
Voilà, exactement. Il y a des gens qui sont arrivés à rentrer et jusqu'après ils l'ont fait sortir. Et c'est dommage.
C'est-à-dire que les travailleurs aujourd'hui ne peuvent pas travailler ?
Aujourd'hui ils ne peuvent pas travailler après une journée comme ça, non.
Et est-ce que ça veut dire aussi que les villages autour souvent sont bouclés en répercussion ?
Oui. Même les villages autour ils sont tous bouclés et personne ne peut rentrer.
Comment vous vivez vous aujourd'hui dans ce contexte ?
On essaye de voir le mieux, de travailler normal, de faire passer les journées normales. On ne peut pas arrêter leur vie à cause des attentats. Des gens qui voient leur vie en noir, ils se lèvent le matin, ils ont envie de écraser avec leur voiture ou poignarder.
Vous vous sentez en sécurité quand vous êtes à l'intérieur ?
Oui, 100% sécurité. On n'a pas de problème.
Et quand vous sortez ?
Quand on sort des colonies, là, ça commence à être... À Boucher de Sion, à des rentrées des villages, des trucs comme ça, c'est dangereux.
Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'attaques.
Voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de passages. C'est facile faire un attentat, en fait, là-bas.
Et vous, quand vous allez travailler à Jérusalem et que vous traversez le Boucher de Sion, c'est un carrefour, en fait,
grand
rond-point. Qu'est-ce que vous ressentez et comment vous passez cet endroit ?
Quand vous passez, on dirait que vous arrivez à une zone... très dangereux, tu vois, il y a les soldats qui sont là-bas, ils attendent, ils savent qu'il y a un truc qui va se passer, qu'il y a quelqu'un qui va essayer de poignarder ou de rouler avec sa voiture, voilà.
Vous, quand vous allez travailler, est-ce que vous êtes armé ?
Oui, bien sûr.
Depuis tout le temps ou récemment ?
Non, ça fait déjà un an que je suis armé.
Qu'est-ce qui justifie que vous ayez le droit d'avoir un permis d'armes ?
Et j'habite dans les colonies, dans les zones un peu de plus dangereuses. Et pour aider la sécurité, ils donnent une permission pour les gens qui savent vraiment qu'ils peuvent faire. Ils ont un travail, ils ont été à l'armée. C'est des gens qui, quand ils vont avoir une arme, ils vont bien l'utiliser pour sécurité et pas pour faire des choses tordues. Voilà.
Et alors, si vous êtes témoin d'une attaque,
oui,
comment vous réagirez ?
La première chose, c'est trouver la personne la dangereuse. Et dès que vraiment j'ai 100% sûr que c'est cette personne-là, bah, s'il est toujours en train d'attaquer, je l'attaque et j'essaye de garder la vie des personnes autour de moi. Au moment vraiment qu'il est en train d'essayer de tuer quelqu'un, en fait, on est obligé de le tuer, c'est pas une question.
Le phénomène est pour l'instant en constante évolution. L'absence d'organisation ne donne de prise ni aux Israéliens, ni à l'autorité palestinienne qui essaye de freiner ce mouvement sans le condamner véritablement. La violence et le rejet est devenu le mode d'expression d'une partie de la jeunesse palestinienne. Presque la moitié des auteurs ont 20 ans ou moins. Ce qui était le cas pour le fils de Ahmed Kmil à Kabatia, ville palestinienne comme les autres, sous occupation, près de Jenin.
Je suis Shuja Abou de Kabatia, j'ai 26 ans. Je travaille dans le business, la téléphonie. La vie est bonne à Kabatia, il y a du travail.
Vous connaissiez les jeunes qui ont fait l'attaque de Jérusalem ?
Oui, ils étaient du village, je les connaissais. On jouait ensemble au football avec l'équipe locale.
Et alors vous pensez quoi de ce qu'ils ont fait ?
Je pense qu'on perd ces jeunes. Mais voilà ce qui arrive quand les juifs et les forces d'occupation maltraitent et tuent les enfants. Forcément, il y a une réaction de certains jeunes qui font cela de façon individuelle. Je n'encourage pas, mais je ne condamne pas non plus. Je ne peux pas me prononcer sur ce qu'ils ont fait. Ces attaques, pour moi, sont une réponse à la politique et à la façon dont l'autorité palestinienne traite avec les Israéliens. Le problème, c'est la coopération sécuritaire avec Israël. Ces jeunes ne veulent pas de cette coopération. Elle ne s'applique qu'à nous, pas aux Juifs. Ils tuent des enfants et l'autorité palestinienne poursuit une coopération qui nous lie les mains.
Vous êtes jeune, vous aussi. Vous ne vous sentez pas représenté par l'autorité palestinienne ou par les politiques en Palestine ?
En quoi l'autorité palestinienne me représente-t-elle ? Elle me représente avec sa coopération avec les Juifs ? Je ne veux pas de coopération. Ce gouvernement qui se dit légitime est imposé. Je ne l'ai pas choisi. Il me représente contre ma volonté.
Je suis Mahmoud Kamel Abati, le maire de Kabatia. Avant, je travaillais au ministère des Finances et puis j'ai été élu ici. On a fait une coordination entre le ministère de l'Éducation, les enseignants et les élèves entre 14 et 18 ans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les familles pour vérifier que les absences des élèves étaient justifiées. Voilà ce qu'on peut faire. On a parlé aux enfants, on leur a dit combien l'éducation était importante. On leur a dit de faire attention, de se concentrer sur leurs études et sur l'école, qui pouvaient apporter des choses à leur pays en étant éduqués. L'éducation permet la résistance. Mais la situation palestinienne est la suivante. On est dans l'impasse sur le plan politique, sur le plan économique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a de la souffrance des deux côtés, pour les Palestiniens et pour les Israéliens.
Taha Katanani, il est religieux, soupçonné par les Israéliens d'appartenir à un groupe classé terroriste. Sa fille de 16 ans a lancé une attaque au couteau au mois de novembre. Elle a été tuée par l'intervention d'un colon.
Dire que ces jeunes sont juste désespérés, c'est un manque de respect pour des martyrs. C'est une action, ce qu'ils font, ça n'est pas une simple réaction. C'est une action de résistance, pensée, bien préparée. D'autant que la plupart des martyrs sont éduqués ou viennent d'un milieu éduqué. Et ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de meilleur choix que de résister. Ça ne vient pas d'une absence de vision. Ils ont vu et compris que l'occupation doit être combattue et levée. Parce que cette occupation n'a pas de justification. La résistance, c'est le meilleur choix. Ce sont les seuls à avoir compris ce qu'il y a de mieux à faire, que la résistance est le meilleur choix.
Qu'est-ce qui a changé en 6 mois ?
Beaucoup de choses. D'abord, ils ont réussi à remettre la Palestine sur le devant de la scène. Ça a montré le vrai visage des leaders arabes et des leaders palestiniens qui sont dans la compromission avec les autorités israéliennes. Mais un des points principaux, c'est que maintenant, l'occupation est douloureuse pour les Israéliens. Elle a un prix. Vous voyez toutes les barrières de ciment autour des barrages ? Ils se sentent en insécurité, ils sentent la menace. Ça n'est plus notre crise, c'est la leur maintenant. Alors, oui, il n'y a pas une attaque tous les jours, mais les Palestiniens sont innovants. Ils sont créatifs et tous les jours, ils inventent quelque chose de différent. L'occupant sent qu'il a été battu. Il est en crise. Par exemple, l'une des choses qu'un des responsables des services de sécurité m'a dite quand il est venu me voir, il m'a dit « Arrêtez d'encourager ces actions ». Il m'a demandé d'enlever la photo de ma fille sur Facebook. Cette image, pour eux, est une menace. Nous, les Palestiniens, on n'est plus les seuls à subir. Cet équilibre de la menace, dans un sens, c'est le résultat le plus important de ces 6 mois.
يعني
Je défends plus de 40 jeunes emprisonnés pour avoir mené des attaques. Ils sont âgés de 12 ans et demi à 17 ans et demi.
Mohamed Mahmoud, avocat, il s'occupe de la plupart des jeunes poursuivis à Jérusalem-Est.
La plupart viennent de secteurs difficiles dans Jérusalem-Est, Issaouiya, Silwan, la vieille ville. Tous ces enfants n'ont pas accès aux services de base. Il n'y a pas d'espace vert. Peut-être que si ces services étaient apportés, les gens pourraient coexister. La raison, c'est qu'ils ne sont acceptés nulle part, ces gamins. L'autorité palestinienne n'en veut pas et les Israéliens ne veulent pas d'eux non plus. Certains instrumentalisent les difficultés de ces enfants. Tous ceux que j'ai croisés souffrent de problèmes familiaux graves. Qu'est-ce que vous croyez? Les plus jeunes que je défends, il y en a un qui a 12 ans et 3 mois et l'autre 12 ans et demi, ils sont partis pour poignarder quelqu'un avec un couteau plus grand qu'eux. Quelle est la conscience de ces enfants? Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils sont d'un milieu défavorisé, ils ont des problèmes. Ce qui les pousse à prendre ce chemin, c'est ce qu'ils voient à la télé, les appels à la violence. C'est tout ça qui les pousse. Ces appels à la violence font des dégâts chez ces enfants. Mais les conditions dans lesquelles ils vivent avec leur famille sont humiliantes. Ces enfants passent par des checkpoints tous les jours. Sur le chemin de l'école, ils sont fouillés, leurs sacs sont fouillés. Les forces de sécurité israéliennes prennent leurs livres et les jettent au sol. Il faut que l'occupant fasse baisser cette pression. Je dis clairement que les informations dans les médias qui appellent à la violence sont l'une des raisons, mais la raison principale, c'est la façon dont l'occupation traite les gens. À notre avis, ces enfants de 12, 13, 14 ans ne devraient pas être entraînés au milieu de ce conflit.
Les enfants, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, le revendiquent?
Oui, ils ont le sentiment d'avoir pris une revanche sur une oppression qui a été installée autour d'eux. Et oui, il y a sentiment parce que les Israéliens nous ont mis dans cette position.
La jeunesse palestinienne qui se lance dans des attaques quasi-suicides. Arrêtons-nous un instant, avant de poursuivre le reportage d'Étienne Monin, sur ce phénomène avec notre invité, Yves Aubin de la Messusière. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur, spécialiste du monde arabe, président de la mission laïque française. Bonjour.
Bonjour.
On est frappé par la jeunesse de ceux qui perpétuent ces attaques. Qu'est-ce qui peut les expliquer? Qu'est-ce qui les motive, selon vous? Pourquoi, depuis l'automne dernier, on a soudain ce phénomène nouveau qui surgit?
Alors, on s'attendait, compte tenu de la situation et du blocage, sans aucune perspective de solution politique, actuellement, à une intifada d'un nouveau type, qui aurait pu se tourner à la fois contre Israël et contre l'autorité palestinienne. Et voilà que surgit cette intifada dite des couteaux, et qui vient de cette jeunesse, c'est un problème véritablement générationnel, hein, et qui finalement conteste aussi l'autorité palestinienne, on le voit très bien à travers les propos qu'ils peuvent tenir, et donc c'est un phénomène de désespérance, une jeunesse sans avenir, et c'est pas lié forcément au chômage qui a beaucoup augmenté, y compris en Cisjordanie, alors qu'il y avait eu une progression au cours des dernières années. Et voilà, donc, ce qui pose un problème à la fois pour l'autorité palestinienne, bien entendu, et puis aussi pour les services de sécurité israéliens qui sont démunis parce qu'ils ne voient pas comment organiser la prévention contre ces actes qui ont fait tout de même une trentaine de morts chez les Israéliens et pas loin 180 du côté palestinien.
Est-ce que la répression violente de ces actes, parfois, n'entretient pas aussi le phénomène, d'autant qu'avec Internet circulent des vidéos où les militaires ou des policiers israéliens abattent parfois les auteurs supposés d'attaques, parfois encouragés par la foule? Il y a un peu une atmosphère de lynchage. Il y a aussi ce militaire israélien actuellement poursuivi pour avoir achevé un homme qui semblait déjà maîtrisé. C'est quelque chose qui alimente une espèce de cercle vicieux de la violence?
Bien, absolument, absolument, parce que effectivement, cette vidéo qui a circulé, à la fois aussi en Israël, bien entendu, chez les Palestiniens, où on voit ce jeune soldat franco-israélien abattre 10 minutes après qu'il ait été neutralisé à froid, qui pose un problème, d'ailleurs pas tellement aux politiques, mais qui défendent finalement ce jeune soldat de Tzahal, mais plutôt même les militaires, hein, puisqu'il va probablement passer devant un tribunal militaire, parce que comme l'a dit le chef d'état-major, qui a été critiqué par l'extrême droite israélienne, ça pose un problème des valeurs morales de Tzahal.
Oui, en Israël, les interprétations divergent, en tout cas entre ceux plutôt minoritaires qui évoquent les conditions de l'occupation et ceux majoritaires qui rejettent la faute sur les appels à la haine côté palestinien qui conditionneraient les jeunes. La réponse pour le moment, on l'a dit, est exclusivement sécuritaire avec par exemple la destruction des maisons des familles des assaillants. On reprend le cours du reportage d'Étienne Monin avec le point de vue de Benjamin Lashkar, membre du comité central du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
L'origine de cette vague d'attaques vient clairement de l'incitation à la haine qui depuis des années continue dans l'autorité palestinienne. C'est le résultat de 20 ans d'éducation à la haine, à la fois dans les manuels scolaires, dans les universités, dans les médias. On voit ce qui passe dans la télévision palestinienne, à la radio, dans leurs journaux. Toute une génération en fait a grandi avec cette haine et maintenant elle passe à l'attaque. Et voilà, c'est l'origine fondamentale de cette vague d'attaque.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la principale réponse politique à cette vague d'attaque a quand même été de gérer la sécurité et d'apporter une réponse répressive vis-à-vis des Palestiniens avec les destructions de maisons, avec un débat aujourd'hui qui porte même sur la possibilité de déplacer des gens, de leur interdire de vivre dans telle ou telle ville au niveau des familles lorsqu'il y a une attaque par un membre de la famille et que la famille était au courant?
Et on ne peut pas ne pas répondre quand il y a une vague d'attaque. Et il faut aussi que les terroristes et leurs familles comprennent qu'il y a un prix à payer. Que les terroristes soient suicidaires et qu'ils veulent mourir, parce que c'est vraiment ça. C'est des gens qui vont... J'aimerais revenir d'abord sur ce point, parce qu'en France, beaucoup de gens pensent que les gens font des attentats suicides parce qu'ils sont désespérés. C'est complètement faux, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Il y a trois causes principales aux attentats suicides. La première, c'est le fanatisme, le bourrage de crâne, le lavage de cerveau. La deuxième, ce sont des gens qui veulent se suicider, tout simplement, comme il y a des suicidaires partout, et qui se disent qu'ils vont le faire en mourant en martyr. Et la troisième, qui est un peu moins présente en ce moment, c'est des gens qui sont forcés à se suicider parce qu'ils ont sali l'honneur de leur famille, parce qu'ils ont collaboré avec Israël, parce que des femmes qui ont couché avant le mariage, ou des choses comme ça. On leur dit, allez vous suicider, et votre famille sera alors respectée et recevra plein d'honneur. Donc c'est ça qui crée les attentats. Comment on empêche ça? Si les gens savent que leur famille va payer le prix, si les gens savent que derrière, après l'attentat, ils ne seront pas juste des martyrs, mais leurs parents, leurs enfants, leurs femmes vont subir des conséquences. Il y a un prix à payer pour être terroriste. Il faut qu'ils sachent que le prix est lourd. Et on voit les conséquences. Il y a des familles qui ont dénoncé leurs enfants avant même qu'ils aillent faire des attentats pour les empêcher. Il y a eu des choses comme ça déjà. On voit qu'il y a une baisse globale du nombre d'attaques. Et je pense que c'est assez efficace. Et pour vraiment arriver à faire en sorte qu'on puisse collaborer de façon fructueuse avec la population palestinienne et les aider à se développer économiquement, il faut d'abord que la violence cesse, parce qu'on ne peut pas arriver à un développement économique avec une vague de violence.
Il y a une pression sur de la droite dure, de la coalition et même de gens qui ne sont pas dans la coalition pour dire la politique de Netanyahou n'est pas efficace, il faut encore aller plus loin. Comment Netanyahou arrive à gérer cette pression sachant qu'il arrive à gérer cette pression? C'est la réalité.
Il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est beaucoup de politique politicienne et beaucoup de démagogie. À moins que les gens veuillent vraiment faire une guerre totale, je ne vois pas très bien ce qu'ils cherchent à obtenir. Faut quand même remettre les choses en perspective. Tous ces 6 mois d'attaque ont fait malheureusement 30 morts chez nous. Mais c'est un attentat de la seconde intifada qui faisait 30 morts en une seule journée. Donc il faut que les choses soient remises à leur juste proportion. C'est pas très agréable, mais c'est pas non plus une catastrophe. La vie continue, l'économie n'est pas affectée. Je vois pas vraiment l'intérêt de prendre des mesures qui juste radicaliseraient encore plus les gens de l'autre côté. C'est pas ce qu'on cherche à obtenir. On cherche à calmer les choses. Il faut garder la tête froide, il faut travailler de façon intelligente et arriver à calmer les choses petit à petit.
First of all, we are talking now more on this specific government, which is.
D'abord, on parle là du gouvernement d'aujourd'hui, qui est un gouvernement de droite,
some of the ministers
dont certains des ministres rejettent l'idée de mettre fin à ce que certains appellent l'occupation, d'autres disent la libération, peu importe.
Yoram Schweitzer, il dirige le programme sur le terrorisme et les conflits de basse intensité à l'Institut d'études sur la sécurité nationale.
La position des militaires n'interfère pas dans le débat politique. Les militaires, et pas seulement les militaires, mais aussi les services de sécurité, comprennent qu'améliorer la vie des Palestiniens, réduire au minimum les contraintes dans leur quotidien, c'est dans l'intérêt des Israéliens pour leur sécurité. Ça ne vient pas en contradiction avec les politiques, tous les politiques, même en dehors du gouvernement, même l'opposition. Pas seulement pour défier le gouvernement, mais il y a beaucoup de politiques, beaucoup de membres de l'Assemblée, qui réalisent et qui comprennent, pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue technique, que rendre les conditions de vie plus difficiles pour les Palestiniens et ne prendre que des mesures de contre-terrorisme, ça n'est pas productif. Et ça ne va pas dans l'intérêt israélien. Et je ne pense pas que le gouvernement, même si c'est un gouvernement de droite avec une image dure, je ne pense pas que tous, y compris le Premier ministre, soit passé à côté du fait qu'on aurait intérêt à aider les Palestiniens à avoir plus de liberté, à être plus nombreux à se déplacer librement et à venir travailler en Israël pour nourrir leur famille.
Donc, pour sortir du problème, il n'y a que la réponse sécuritaire ou il faut une réponse sécuritaire et politique.
Il est certain que ce genre d'attaque ne permettra pas aux Palestiniens d'atteindre leur but politique. Ça ne mène nulle part. Maintenant, bien sûr, il faut, si ce n'est une solution politique, au moins quelque chose qui mène à des négociations pour améliorer les choses et trouver une forme d'accord. Ça ne fait aucun doute. Si on a des attaques constantes, si ça s'accentue, la réaction d'Israël sera encore plus dure. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois que les services de sécurité empêchent une attaque terroriste, et je le disais au moment des attentats suicides, à chaque fois qu'ils évitent une attaque, ils encouragent la paix.
Aïssa El Châtelet, il habite au pied de Bethléem. Il est en train de perdre une grande partie de ses terres, préemptées par la construction du mur qui a repris cet été à quelques mètres des habitations.
Ici, c'était le futur de ma ville, de Beit Jala. Quand ils auront fini de construire ce mur, il n'y aura plus de futur. Il n'y aura plus moyen d'étendre la ville. Parce que le mur est entre la ville et toutes les terres encore vierges. Et elle est maintenant encerclée de tous les côtés. Donc il n'y a plus de futur pour cette ville. Ils parlent de leur sécurité et la nôtre de sécurité. On n'a pas de sécurité et ça n'intéresse personne dans la communauté internationale, ce qui nous arrive ici. Ils nous mettent dans une grande prison. Au lieu de nous donner notre état, ils prennent ou ils nous confisquent toujours plus de terres. Ils ne nous donnent aucun espoir pour vivre ou pour faire la paix avec eux. Ils plantent de la haine. Ils ne plantent pas les graines de la paix.
Vous comprenez que ça rend fou les jeunes Palestiniens, tout ça ?
C'est une question très compliquée, mais... Oui, peut-être. Ça les affecte. Si vous pressez, vous pressez, vous pressez, et après ça, ça explose. Tout simplement. Et je vous le dis, personne ne se préoccupe de ce qui nous arrive ici. Le monde regarde ailleurs.
Khamed Shikaki, je dirige le centre palestinien de politique et d'enquête à Ramallah. Il y a sans aucun doute un fossé entre la politique du président Mahmoud Abbas et les attentes des Palestiniens. Depuis septembre dernier, une majorité des deux tiers des Palestiniens veulent la démission d'Abbas.
Est-ce qu'il y a aussi un fossé entre les générations ?
Oui, ça ne fait aucun doute. Il y a des différences, et même des grosses différences. Il y a un rejet flagrant du système politique par les plus jeunes. Ceux que l'on interroge et qui ont entre 18 et 22 ans, on les appelle la génération d'Oslo, ceux-là sont les plus radicaux. Ce sont les plus éloignés du processus politique. Ce sont eux qui rejettent en grande majorité la solution à deux États. Ces jeunes sont pour l'utilisation de la violence. Maintenant, à l'autre extrémité, si vous prenez les 50 ans et plus, vous trouvez un soutien plus marqué pour une solution politique. Même chose pour les deux États. Et ce groupe-là est beaucoup moins favorable à l'action violente.
Quelle est l'opinion sur l'intifada des couteaux, sur les attaques ?
Les habitants de Cisjordanie qui soutenaient ces attaques il y a trois mois encore les rejettent aujourd'hui. Une majorité de gens en Cisjordanie rejettent ces attaques au couteau. Je pense d'ailleurs que la plupart sont convaincus que ces attaques ne déboucheront sur rien, qu'elles n'aideront pas à faire cesser l'occupation israélienne. C'est évident. C'est une question d'efficacité et de résultats. Il faut pousser les Israéliens à changer de politique. Beaucoup sont convaincus que les attaques au couteau ne parviendront pas à modifier la politique israélienne. Mais en revanche, une majorité de gens de Cisjordanie croient qu'une intifada armée, du même type que la deuxième intifada, permettrait aux Palestiniens de faire valoir leurs droits alors qu'ils n'y parviennent pas aujourd'hui par la négociation.
Denis Jarmid, je suis professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël et auteur du livre « Israël et ses paradoxes » paru en 2015 aux éditions Le Cavalier Bleu. Je suis absolument convaincu que le gouvernement qui est effectivement le plus à droite de l'histoire d'Israël, cette coalition donc qui est la plus à droite de l'histoire d'Israël, dans la convergence avec cette intifada des couteaux qui finalement se prolonge, elle n'a pas pris plus d'effet, elle n'a pas pris plus d'éclat, mais elle se prolonge dans un rythme assez soutenu, a eu comme conséquence une crispation encore plus forte de la société israélienne, précisément parce que du côté palestinien, cette intifada semble durablement échapper aux organisations. Du coup, cela a suscité chez les Israéliens ce sentiment qu'on revient à une forme, j'ai envie de dire, quasi-primaire, pour ne pas dire quasi-primitive, d'un conflit. Là où la jeunesse des auteurs serait expliquée à l'extérieur d'Israël comme la preuve d'un désespoir, la preuve d'un no futur dont souffriraient ces jeunes Palestiniens, en Israël, c'est interprété comme l'effet d'une diabolisation d'Israël qui commence si jeune, qui commence presque au berceau. C'est donc cette réduction du conflit au niveau le plus élémentaire, dans un contexte régional et international avec le terrorisme, Daesh, etc., et les troubles au Moyen-Orient, qui fait que on se recroqueville en Israël sur une explication de cette vague-là comme témoignant d'un refus global, non seulement de l'État d'Israël, mais des Israéliens et des Juifs comme tels.
Il y a quelques jours, une vidéo filmée à Hébron a montré un soldat israélien tirant apparemment de sang-froid sur un Palestinien qui venait de mener une attaque et qui avait déjà été blessé, qui était au sol, plusieurs minutes, 11 minutes après qu'il ait été lui-même blessé, donc au sol. Malgré ces images, la société israélienne, dans sa majorité, ne semble pas vouloir condamner cet acte. Elle condamne plus facilement, finalement, l'institution militaire qui a ouvert une enquête pour essayer de savoir s'il y aurait ou pas matière à déférer ce soldat devant la cour martiale. Est-ce que la société israélienne est en train de se décaler, de bouger, de glisser dans les normes qu'elle a elle-même créées pour se revendiquer comme une société démocratique ?
Alors, je nuancerai un petit peu. Ce que la société israélienne, ce que la majorité d'entre elles, d'après les sondages, semble dire, ce n'est pas qu'elle condamne ou qu'elle ne condamne pas l'acte. Ce qu'elle condamne, c'est le fait qu'on ait à le traduire en justice. C'est-à-dire qu'on estime qu'il n'était pas en état de légitime défense. Et je pense, effectivement, pour revenir à votre question, que cela traduit, effectivement, la crispation de la société israélienne. On ne touche pas à un soldat israélien. Et je dirais, à plus forte raison, parce que c'est l'institution. Que cela vienne de l'institution israélienne elle-même, de l'armée, du chef d'état-major, du ministre de la Défense, et même du Premier ministre, qui a condamné quand même assez rapidement l'acte en disant « ça ne fait pas partie », ce qu'on a vu sur le film ne fait pas partie des valeurs du pays, c'est considéré comme un manque de solidarité élémentaire à l'égard d'un soldat israélien, dont il faut bien comprendre que dans la logique israélienne, on l'appelle, je le traduis ici en français, « notre fils ». Mais je pense qu'au-delà de certaines nuances à respecter, je crois que cela traduit effectivement les ravages psychologiques, à défaut du bilan qui n'est pas aussi lourd que ça au bout de 6 mois, des ravages psychologiques de cette intifada des couteaux, c'est-à-dire qu'elle arc-boute chaque camp dans son compte à soi, dans sa bonne conscience, dans le sentiment qu'elle défend la vérité, l'humanité, la justice, etc. Et je dirais que de ce point de vue-là, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que chaque côté est convaincu de la justesse de sa cause. Je veux dire, côté palestinien, vous aurez une difficulté énorme à reconnaître qu'il y a quand même un problème à utiliser la violence pour des fins politiques aussi justifiables soient-elles. Et du côté israélien, ces attentats à répétition finissent ou achèvent de rendre possible pour les Israéliens l'idée d'une solution politique qui mettrait fin à ce conflit.
Il y a eu beaucoup d'études sur la résilience dans la population. Et on peut toujours se demander si on peut s'habituer à ça.
Ofer Merin, directeur adjoint de l'hôpital Shaar Zedek à Jérusalem, dans lequel la moitié des victimes des attaques ont été soignées.
Est-ce qu'on peut vraiment s'habituer à avoir des attaques au couteau tous les jours ? Si vous êtes assis et, par exemple, votre épouse est poignardée, vous vous dites « Bon, ok, ça fait partie de notre vie ». Ici, on ne pense pas que qui que ce soit puisse être préparé à cela. On est très strict sur le fait que chacune des victimes d'attaques terroristes qui arrivent, on fait en sorte qu'elle parle à un travailleur social ou à un psychologue et qu'elle parle de ses sentiments. J'insiste, ce n'est pas quelque chose de trivial. C'est toujours ce que je dis aux patients que je vois. Même si on vit malheureusement dans un secteur comme Jérusalem, où il y a presque une attaque par jour, ça n'est pas quelque chose auquel on peut s'habituer. Vous êtes là, vous marchez dans la rue et quelqu'un essaye de vous tuer. J'ai personnellement suivi plusieurs de ces patients et je peux dire que certains, ce couple par exemple, il y avait une jeune femme qui a été poignardée et je suis en contact avec elle. Et elle n'est jamais remontée dans un bus. Elle ne peut plus s'asseoir dans un bus. Elle ne se sent pas bien si elle entre dans un bus. Donc on est tous habitués à voir les blessures physiques, mais il n'y a aucun doute qu'il y a un impact psychologique pour tous ces patients. Et il n'y a pas véritablement de corrélation entre la gravité de la blessure et l'impact psychologique. Parfois, il suffit d'être témoin, même si vous n'êtes pas blessé, de marcher avec quelqu'un et de voir cette personne se faire poignarder, ça laisse un gros impact.
Est-ce que vous vous préparez à vivre cela sur la durée ?
À titre personnel, je ne pense pas qu'on va vers la fin de tout cela. Pour en sortir, Il faudrait négocier avec nos voisins pour commencer à essayer de trouver une solution. Mais je pense qu'on en est loin. Et même si je regarde en arrière, il est vrai que ça a baissé en intensité. Mais je crois que c'est principalement dû à l'activité des forces de défense pour empêcher ces situations. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins nombreux à vouloir lancer ces actions.
Je m'appelle Daniel Seidman, je suis un avocat israélien et je travaille sur les relations entre Israéliens et Palestiniens à Jérusalem. En fait, sur la géopolitique à Jérusalem. Si vous discutez avec des représentants d'Israël, vous allez entendre parler d'un mythe, celui de l'unité de Jérusalem. Mais le seul endroit où Jérusalem est unie, c'est dans l'imagination des idéologues de la droite, comme le Premier ministre Netanyahou ou le maire Barakat. Vous ne trouverez nulle part ailleurs sur la planète un Premier ministre ou un maire aussi détaché de la réalité concrète de la ville qu'il prétend gouverner. Depuis 1967, Jérusalem est globalement restée une ville divisée. Il y a toujours eu des murs de verre tout autour de la ville, comme des frontières imaginaires.
Ils
n'étaient pas matérialisés, il n'y avait pas de barrières physiques, mais les gens agissaient comme s'il y avait des murs de verre. Les Israéliens vont rarement dans la partie est de la ville, et les Palestiniens qui viennent à l'ouest le font principalement pour travailler, parce qu'il n'y a pas de travail à Jérusalem-Est. Et ce qui était un mur de verre depuis 1967 s'est maintenant transformé en une barrière électrifiée. J'ai passé toutes les années de la deuxième intifada à aller, quand je le voulais, dans la partie est de la ville, sans prendre de risques, sans sentir d'hostilité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible pour moi d'aller dans 90% de Jérusalem-Est sans prendre des risques personnels, physiques, que je ne désire pas prendre. C'est risqué pour un Israélien d'aller dans ces quartiers sans un ami palestinien, moi-même, j'y vais accompagné. Mais on peut dire la même chose pour les Palestiniens de Jérusalem-Ouest. Mes amis palestiniens qui travaillent dans un café à côté d'ici ne sortent que par groupe de deux ou trois à la demande du patron. C'est dangereux pour eux de sortir seuls parce qu'il y a des groupes de vigiles israéliens qui chassent les Palestiniens juste pour le plaisir. Jérusalem est plus divisé aujourd'hui que jamais depuis 1967 et ça risque de ne pas s'améliorer. Aujourd'hui, Israël est fort comme jamais. On peut se défendre contre n'importe quelle menace extérieure. Des dizaines de milliers de missiles du Hezbollah, on peut gérer ça. La menace nucléaire de l'Iran, on peut gérer ça aussi. Mais on ne peut pas gérer un garçon de 15 ans avec un couteau. Il n'y a pas de réponse militaire possible à la menace que crée l'occupation. Ça ne s'arrêtera que lorsque l'occupation cessera et personne ne dit cette vérité au public israélien. Ce qu'on voit maintenant, c'est une forme agressive et rampante d'occupation. L'attitude d'Israël, c'est de s'enfermer dans son bunker en disant que le monde entier est contre nous. On vivra toujours par l'épée. Finalement, j'aimerais qu'on réalise que la solution à tout cela se trouve dans un accord politique qui créerait un État palestinien à côté d'Israël. Malheureusement, personne dans l'arène politique ne dit cela aujourd'hui.
Même du côté du Parti travailliste.
Absolument. Le Parti travailliste est une mauvaise copie de la politique de Netanyahou, mais personne ne peut faire du Netanyahou mieux que Netanyahou lui-même.
Israël face à l'intifada des couteaux, c'était un reportage du correspondant de Radio France à Jérusalem, Étienne Monin, Mixage, Philippe Mercher. On revient avec vous, Yves Aubin de La Messusière, sur les perspectives politiques. Vous êtes diplomate, cette intifada des couteaux intervient à un moment où le processus de paix semble plus que jamais dans une impasse. La France a proposé de tenir d'ici l'été prochain une conférence internationale sous égide de l'ONU. Cette initiative vous paraît avoir un avenir ?
Bien, écoutez, difficilement. On peut se féliciter de voir, c'est une initiative lancée par Laurent Fabius, peu de temps avant son départ. C'est ce que j'appelle de l'ingénierie diplomatique. Ce qui est proposé est tout à fait raisonnable. On constate qu'il y a un blocage du processus de paix, que les entretiens directs bilatéraux, ça ne fonctionne pas, que le quartet, ça ne fonctionne pas. Donc il propose un élargissement, effectivement, donc sous l'égide aussi des Nations Unies. Et ce que, donc, dans un premier temps, il s'agit de réunir les principaux partenaires, les principales puissances, les membres du Conseil de sécurité, et puis aussi parmi les pays arabes, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie qui sont directement concernés par une perspective de solution. Et puis dans un deuxième temps, on réunirait les parties. Mais je vois que normalement, il devrait y avoir le premier temps devrait se dérouler au mois d'avril. Je pense que c'est probablement prématuré. Pourquoi ? D'abord, Israël ne veut pas d'initiative en dehors des négociations bilatérales sous l'égide américaine. Du côté des États-Unis, on est en période électorale et on voit mal, après l'échec de l'exercice qui avait été mené avec beaucoup de détermination pourtant par Kerry, le secrétaire d'État américain, et dès ce moment, Barack Obama s'est, je dirais, mis en retrait, laissant Kerry. C'est-à-dire on ne l'a plus véritablement entendu sur ce dossier.
Est-ce que la solution à deux États, qui est toujours exigée par les résolutions de l'ONU, est encore possible ?
C'est possible parce qu'on ne voit pas d'autres solutions. On ne voit pas. L'État binational, c'est comme donc l'État unique. Ça voudrait dire que pour Israël, pour son avenir, Israël va se transformer en État d'apartheid. Et donc on voit que la colonisation se poursuit, se renforce. Ce qui explique, c'est un des éléments d'ailleurs de la révolte des couteaux, hein, cette humiliation qui est subie, la destruction aussi des, la récupération de terres, la destruction de champs d'oliviers, les punitions collectives. Ça, il faut en parler, c'est important aussi. Donc voilà. Alors pour l'instant, je ne vois pas de perspective politique. Et puis il faudra revenir raisonnablement parce que c'est la position de la communauté internationale. Il existe des résolutions des Nations Unies à ce sujet pour la création d'un État palestinien viable et démocratique.
Merci Yves Aubin de La Messusière pour cet éclairage. Interception est réalisée par Anne Liorot, assistée cette semaine par Fanny Cohen-Moreau et Stéphane Combe. Sophie Hoffmann a réalisé notre page internet. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bon dimanche.